France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, nous recevons la metteuse en scène, scénographe, chorégraphe, performeuse, jongleuse, Fia Ménard. À 19h20, affaire en cours, comment peut-on définir la notion de paysage ? Yves-Michel Bernard, chercheur associé en histoire de l'art à l'université de Bordeaux-Montaigne, tentera l'exercice au micro de Marie Sorbier. À 19h50, affaire à suivre, comme chaque lundi, direction l'étranger, nous retrouverons Isor Ias, correspondante de France Culture. En Autriche, le tour réalisé par Cécile Lafont avec Hugo Renard à la prise de son. Bonsoir Fia Ménard.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que votre trilogie des contes immoraux pour Europe poursuit sa tournée après Angers-Orléans. Elle sera donnée à la MC 93 Bobigny du 6 au 10 au 12 janvier avant d'être à l'affiche au Tandem, scène nationale à Razdoué, puis à Anvers, Bayonne, Chambéry, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Rennes. D'autres dates spécifiques à venir pour certains de vos spectacles. Partie 1 des contes immoraux, maison mère à Saint-Nazaire, à Quimper, l'après-midi d'un feune, Vortex à Rochefort, Chalon-sur-Saône, au Pays Basque, à Saint-Dié-des-Vosges, et puis l'après-midi d'un feune, version 1, au Cresse, près de mon Montpellier, où j'ai grandi. Autant de bonnes occasions de vous recevoir, afin d'évoquer à la fois votre parcours et vos méthodes de travail, alors que nombre de nos auditrices et auditeurs, on le souhaite, qu'ils vous connaissent ou pas, pourront découvrir vos créations près de chez eux. L'énoncé de vos qualités artistiques, j'en ai même rajouté, était dans ma présentation assez long, mais justifié, puisque l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre pratique. Mais les tout premiers émois artistiques, ils sont venus par la danse, notamment en regardant à la télévision les ballets de Maurice Béjart, le boléro de Ravel, Georges Donne, mais aussi en vrai, Welcome to Paradise de Joël Bouvier, Régis Obadia, et puis, vous en avez souvent parlé, le spectacle Extra-Ball du jongleur Jérôme Thomas. On est au début des années 90, vous vous destinez alors à devenir technicienne dans la fabrication d'outils de chirurgie, si j'ai bien compris. Mais concernant le jonglage, il faut dire que découvrir le spectacle de Jérôme Thomas, vous aviez déjà une initiation par votre frère au rudiment du jonglage, mais qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ce spectacle, Fia Ménard ?
Je pense que c'est peut-être la première fois où je suis dans un rapport autant de famille, de fascination par la virtuosité, mais je crois aussi par une relation à oublier le monde, c'est-à-dire à vraiment être à l'intérieur de la possibilité de l'imaginaire et d'oublier le temps d'une création, d'une pièce, j'irais même la réalité du corps. Le poids, presque l'abandon en fait, c'est cette notion-là qui intervient. Il se passe quelque chose dans l'émotion qui fait que de toute façon je ne pourrais plus échapper au désir de retrouver cette sensation.
Le rapport au corps, on en parlera, puisque évidemment à cette époque-là vous n'aviez pas encore fait votre transition, et si j'en parle c'est parce qu'elle est importante dans votre parcours artistique, Fia Ménard, mais votre rapport au corps était, on va dire, évidemment compliqué, et découvrir qu'il pouvait faire de belles choses, c'était important, la possibilité de faire des belles choses. Au fond, c'est le désir de faire quelque chose de votre corps qui vous a qui a accru cette sensibilité artistique, vous pensez ?
Je pense que oui, dans le sens où lorsque vous êtes voilà, à l'époque, hein, j'ai 22 ans, on cherche à vraiment comprendre la réalité de la société, et surtout on commence à saisir finalement ce que c'est que la société. Donc on en vit des choses, on vit le rapport au travail, on vit au rapport à quelque chose qui sans arrêt remet une pression de dire mais voilà, je rentre dans une situation qui est celle de la vie d'adulte. Et avec toujours cette envie de la changer et en même temps cette incapacité à accepter son propre corps. Donc ça veut dire que mon propre corps me renvoyait à une place dans la société dans laquelle je ne me reconnaissais pas, et en plus dans cette société que je voulais absolument changer. Au moment où on se réapproprie ses propres gestes et on comprend que finalement on n'a pas été totalement formaté par une éducation, par une société, on commence à comprendre ce que veut dire l'art. C'est-à-dire on commence à saisir que finalement la démarche de l'artiste est souvent de se débarrasser de ce que la société lui demande de porter. Et donc de cette sensation de pouvoir se réapproprier mes gestes, c'était pas le définir que j'allais retrouver des gestes de la femme que je suis aujourd'hui, mais finalement ceux qui me disaient que j'ai quand même un imaginaire, que j'ai quand même quelque chose qui reste et qui parle réellement de ce que je semble ressentir du monde. Donc ça veut dire que c'est toujours cette même relation, c'est de se sentir exister au monde, et finalement au moment où vous sentez ça, vous vous sentez prêt à affronter la société et être avec les autres. Donc comprendre ce que ça voulait dire avec les autres, c'est le théâtre, c'est l'art qui le pose, je pense, le mieux, et qui est un endroit pour ça.
Avant de poursuivre, on va écouter Jérôme Thomas, au micro de Francesca Isidori, dans Affinité Élective, sur France Culture, c'était en juin 2005.
Depuis une vingtaine d'années, je fais ce travail de transmission, qui est de transmettre aux jeunes jongleurs une manière de voir le jonglage par sa sensation. Pas par le résultat que de montrer devant le miroir qu'on est un bon jongleur, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais de montrer que d'être jongleur, c'est un art de la sensation, et d'être à l'intérieur de la sensation. Donc je transmets cette notion de sensation à beaucoup de jeunes jongleurs qui viennent me voir. Aujourd'hui, j'ai spécialisé ce travail-là auprès d'une quinzaine de personnes qui sont, très assidues à cette pratique, qui sont des professionnels déjà complets et qui sont encore en étude avec moi. Et c'est avec eux que je viens de concevoir une troupe, une création d'une troupe où ces 10 jongleurs sont auprès de moi. Je viens de téléphoner avant qu'on se parle ensemble à une des personnes avec qui je travaille ce matin, en lui disant que j'allais peut-être parler d'elle. Voilà, chose faite. Où on se disait ce matin que c'était fantastique, que on se sentait bien dans notre peau, que on avait de la perspective devant nous, qu'il y avait beaucoup de travail devant nous, que ce travail-là, il nous donnait beaucoup de joie, il nous donnait beaucoup de sens, qui nous enlevait les peurs, qui nous donnait de la sagesse, de la tranquillité, et qui nous donnait aussi, un sens, une responsabilité, un sens, oui.
Ben voilà, un sacré programme. Il faut dire, Fia Ménard, que dès 94, vous suivez l'enseignement de Jérôme Thomas. Vous intégrez sa compagnie quelques mois plus tard pour faire partie du spectacle Hic Hoc, avec lequel vous avez tourné dans le monde entier. En parallèle, il y a aussi les leçons de danse auprès du danseur et chorégraphe Hervé Diasnas à partir de 97. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces années-là, qui sont à la fois vos débuts professionnels et en même temps la poursuite de l'apprentissage? Comment est-ce que ces rencontres, ces spectacles, vous êtes-ils à forger votre propre identité artistique?
Alors je pense que déjà, comme toute formation, la très grosse difficulté, c'est que vous devez manger, boire un apprentissage. Et finalement, plus que le digérer, c'est le prendre le plus possible et accepter que le digérer va être prendre du temps. Donc c'est vrai que la rencontre avec Jérôme Thomas et de Hervé Diasnas, je pense que les deux d'ailleurs, c'est assez rigolo, ils ont créé un spectacle ensemble qui est finalement ce extra-ball. C'était incontournable qu'à un moment je croise les deux chemins, qui sont deux chemins finalement opposés, entre un qui m'interrogeait sur la question du contrôle, de la puissance, de la maîtrise, du rythme, et l'inverse chez l'autre qui me disait « détache-toi de ça et ouvre ta plus grande possibilité à sentir ce que ça veut dire l'énergie, la colonne d'air, qu'est-ce que c'est que un certain nombre d'éléments ». Et je dois aux deux finalement aussi un regard de distanciation très fort, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce que au final, il pouvait attendre de moi Et ce qu'ils attendaient de moi, c'était finalement que le plus vite je parte. Et le plus vite j'accepte aussi de mettre les mains, je dirais presque, dans un moteur et de voir ce que je pouvais en faire. Donc c'est vrai que cette formation en elle-même, qui a duré quasiment sur presque 12 ans, je dirais, hein, qui finalement on peut se dire c'est rien, c'est après où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'écriture. C'est-à-dire peut-être qu'après j'ai commencé à accepter de dire ok, il va falloir maintenant que j'assume cette position d'artiste.
Ah, mais vous l'avez assumé assez vite, puisque dès 98 il y a la création de Non Nova, il y a votre premier spectacle, Le Grain, qui est un grand succès. La rencontre donc avec Claire Massonnet, qui devient la co-directrice de la compagnie. De nombreuses autres créations vont suivre. Ascenseur, Fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux, 2001. Le Grand Bazar, 2002. Zap Time, réveiller nos zappeurs, en 2003. La conférence spectacle jongleur pas confondre, ça c'est 2004. Et puis, très vite, la notion d'injonglabilité. Merci d'avoir choisi ce mot. La radio, c'est très très bien. Pour Doggy Bag, et puis des formes cabaret, Jules Forever et Touch It. On va voir dans un instant que 2008, ça marque une charnière à mains égards dans votre vie et votre travail, Fiamina. Mais c'est, j'ai fait un déroulé très très rapide dans le temps d'une décennie. Mais cette première décennie de votre compagnie, justement, comment est-ce que vous la regardez aujourd'hui, rétrospectivement?
Je la regarde avec déjà le souvenir d'avoir une chance incroyable d'avoir été très vite soutenue par quelques directions de théâtre, par le ministère, par très vite j'ai vu la bienveillance face à des formes qui étaient déjà en grand questionnement. C'est-à-dire que je dirais que cette décennie-là, quand je les re-regarde aujourd'hui des fois dans des ateliers avec des étudiants, je me rends compte que tout y était, mais rien n'était lisible. Donc, ce sont des épreuves assez terribles. Mais dedans, je les regarde aussi comme une période où aussi j'ai énormément travaillé à l'étranger. Et c'est aussi cet endroit-là qui a complètement nourri de plus en plus, finalement, cette question. Mais qu'est-ce que je cherche? Pourquoi ce théâtre? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux faire du théâtre? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet acte? Et sans arrêt d'y confronter, finalement, j'ai posé avec maladresse énormément de sujets. Jusqu'à accepter, à un moment de la rupture, de comprendre que finalement, cette maladresse de l'écriture, qui était beaucoup liée à la question de la jonglerie, comme vous l'avez dit, arrivée à l'injonglabilité, c'était arrivé aussi à un moment où finalement la virtuosité que je pouvais, et qu'on m'avait apprise, et que j'entretenais, ramenait une question beaucoup plus humaine, et beaucoup plus profonde que celle du théâtre, qui était à un moment, mais finalement, pourquoi aller se montrer face à un public? Quel est l'intérêt si c'est simplement pour juste faire acte de remarquer ou faire remarquer sa virtuosité? Et ça ne ramène rien en fait. Il y a quelque chose dans la virtuosité qui est très vaine. C'est que on la compare. La virtuosité est une forme de comparaison. Et je crois que c'était la limite de ça, c'est-à-dire que j'ai poussé la comparaison et à un moment, l'injonglabilité est arrivée en disant « Ok, il faut que je détruise mes objets, il faut qu'on arrête de regarder cette virtuosité, elle ne raconte rien, cette virtuosité. » Donc il m'a fallu une décennie pour arriver à cet état-là.
Ce qui n'est pas toujours évident, pardon, je vous interromps, Fiamina, parce que justement, quand on enchaîne les créations, moi je milite depuis très très longtemps pour des résidences de jachère, pour que les artistes ne créent pas, mais du temps pour cela. Quand on enchaîne, on peut ne pas avoir le recul que vous avez eu. Qu'est-ce qui fait déclic chez vous pour vous dire, oui, la virtuosité, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est pas ça que j'ai envie de communiquer, c'est pas ça que j'ai envie d'échanger.
Je pense que déjà, d'une, c'est la rencontre. Je veux dire, c'est au moment où votre travail propose un dialogue et qu'il n'est pas dans l'affirmation, vous trouvez des personnes. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable, mais je le dis, de bienveillance, de nombre de personnes autour de moi, que ce soit des artistes, ou que ce soit même des universitaires, ou que ce soit même des spectateurs, tout simplement, voilà, qui d'un seul coup aussi sentaient quelque chose, parce qu'il y avait un travail d'émotion dedans, me renvoyaient beaucoup de questions, c'est-à-dire finalement, c'est presque s'ils soulevaient la petite couche de peinture qui disait, mais dis-donc, en dessous, il y a quelque chose de... Ça se base sur quelque chose, c'est pas du vide. Et je crois que c'était aussi ces rencontres-là qui, à un moment, posent la question d'assumer véritablement. Et je crois que cette confrontation, aussi bien de la quête d'identité que celle de savoir pourquoi, du chemin de vie que j'aurais fait, j'arrive à cette question du théâtre et arriver dans l'espace du théâtre, viennent à presque être un endroit totalement parallèle, comme je dis, des pas un peu dans le désert qui sont parallèles, puis à un moment, le sable fait que c'est plus qu'une seule trace. Et cette trace-là, on la regarde et on se dit, bon, ok, là, il faut vraiment faire quelque chose.
Oui, parce qu'en 2008, donc, à la fois, vous entamez votre transition et vous débutez le projet ICE, injonglabilité complémentaire des éléments, parce que avant ce projet, il y avait l'idée de jongler avec des cactus, avec des bouts de verre, enfin, avec du danger. Et donc, introduire un autre rapport, on va dire, avec les spectateurs, pas seulement pour voir « Oh, c'est beau », mais pour avoir peur pour vous. Enfin, il y a quelque chose d'une tension tout à fait différente. Et puis, ces pièces de glace, janvier 2008, aux Nouvelles Subsistances, à Lyon. Et là, sont les glaçons, d'abord. Jongler avec des glaçons. Donc, je pense que tout le monde peut s'imaginer cela, mais il y a jongler avec les glaçons. Et puis, il y a suspendu au-dessus de vous des blocs de glace qui, par définition, vont tomber de façon aléatoire. Et donc, il y a cette zone de danger. Il s'agissait littéralement de mettre à mal votre position.
Alors, c'était mettre à mal plusieurs positions. Hein. C'était la position déjà de celle de l'homme, c'est-à-dire de la parure de l'homme dans une société. Donc celle-ci se posait, celle du jongleur à l'époque aussi, c'est-à-dire que j'étais arrivé quand même à un taux de pratique qui était arrivé à dire ok, j'étais passé par les cactus, j'étais passé par quelque chose qui était finalement de se dire mais quel serait le lien que je peux trouver avec la personne lambda et qui me permette de dialoguer avec lui, de faire finalement ce chemin que aussi bien Jérôme Thomas que Hervé Dassens me posaient comme question et ce que j'avais pu observer finalement aussi dans les œuvres d'art scéniques ou quoi que ce soit. Qui est vraiment une forme d'art, c'était à quel endroit tu laisses l'objet dans les yeux du spectateur, dans son corps, et c'est lui qui fait le chemin et c'est lui qui fait ce voyage. À ce moment-là, la jonglerie, je la dépose comme un acte de virtuosité en disant « mais la virtuosité n'est qu'un acte de suffisance. J'ai besoin de passer à autre chose » et cette relation, elle est d'un seul coup de dire « ok, vous allez avoir peur pour moi, mais finalement ce n'est pas moi. J'avais envie de poser la question « ok, je vais faire ce chemin chaotique qui est d'accepter une nouvelle identité, de rentrer dans ce chemin de la transidentité, de faire ce voyage. » Mais pour comprendre que c'est un voyage, il fallait reposer une question qui était « où est votre empathie pour l'autre ?» Et l'empathie pour l'autre, elle est qu'à un moment, je mets en scène en effet un acte où on passe notre temps à avoir peur pour la personne qui est dans l'espace de la scène. Et dans cet espace-là, il se pose même une autre question. C'est qu'on y projette son corps parce que le rapport au froid, le fait que je m'allonge dans un lit rempli de glace, on est sans arrêt à se renvoyer aussi notre propre corps dedans. C'est la première fois où j'ai entendu une salle. C'est la première fois où j'ai entendu des spectateurs faire mais pas par peur, mais par d'un seul coup, le fait de sentir leur propre corps.
Les neurones miroirs en action.
Exactement. Et je crois que c'est ça, en fait. Le vrai chemin, c'est de comprendre à un moment, ok, l'apprentissage que j'ai fait pendant toutes ces années, il arrive à cet endroit-là. Ok, j'ai compris ce que je peux faire de la jonglerie comme une forme d'art et qui doit être une forme qui peut parler d'une manière à faire que d'un seul coup, ce ne soit plus la sublimation, mais bien une relation d'un être humain à l'imagaire d'un autre être humain.
Qui fera un bon point de départ pour la suite de notre conversation, Fia Ménard. Mais auparavant, comme chaque soir vers cette heure-ci, on va d'abord retrouver Marie Sorbier pour Affaires en cours.
Fait en cours du jour, le paysage comme témoin et support de la diversité culturelle. C'est peu dire que le mot paysage est à la mode, il s'emploie beaucoup, souvent aussi bien dans la langue médiatique, politique, sociologique qu'artistique, mais il est pourtant toujours aussi difficile de le définir. Yves-Michel Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Université de Bordeaux-Montaigne, vous avez enseigné l'histoire de l'art à l'École supérieure de l'art de La Réunion, et vous avez récemment dirigé un séminaire sur ce que vous nommez patrimoine-paysage. Alors pourquoi vouloir associer ces deux notions ?
à La Réunion, on pourrait finalement définir le paysage comme une fabrique. Le paysage avant l'arrivée de l'homme au XVIIe siècle était un forestier, un paysage uniquement uniforme. Et puis au XVIIe siècle, on a commencé à exploiter et donc on a transformé petit à petit le paysage. Donc ce paysage est, comme dans beaucoup de régions françaises, mais ici c'est encore plus caractéristique sur une île, a été scindé en différents cadrages, hein, puisque le paysage, c'est cadrer un pays. Hein. Donc on a quatre éléments finalement qui le caractérisent. Le bord de mer, où nous sommes ce matin, la plaine, puis la pente, que les géographes appellent la planèse, et puis il y a un quatrième élément qui est la quatre voies, hein, c'est cette route de bitume qui ceinture l'île. Et à partir de là, on a figé un petit peu ces éléments qui ne se court-circuitent pas les uns avec les autres et qui font que ce paysage s'est transformé en patrimoine. Voilà.
Qu'est-ce que l'art a à faire là-dedans ? Pourquoi on vient parler d'art contemporain et d'artiste quand on parle de paysage ?
Quand on parle de paysage, on se réfère évidemment à la notion de peinture au XVIe siècle aux Pays-Bas, puis au XVIIe en France, sur la peinture de paysage. Hein. C'est un cadrage en peinture où la peinture est en longueur et non plus en hauteur sur la notion de portrait. Et à partir de là, on va construire une image un petit peu factice dans la peinture, c'est ce que l'on voit au musée Léon Dierx à Saint-Denis-de-la-Réunion, où l'on a ces éléments-là qui reviennent constamment, la côte, la plaine, la pente et la circulation. Et donc, les artistes, au fil du XIXe siècle, dans cette peinture souvent très néoclassique que nous avons à La Réunion, ont exploité ces quatre éléments. Et au XXe siècle, ont essayé de s'en détacher. Mais ce détachement a toujours été de sectoriser un des éléments. Alors, vous avez les paysages de bord de mer qui se vendent dans les marchés. Vous avez les paysages de montagne qui se vendent dans les hauts. Et puis, il y a, à mon avis, un phénomène artistique très intéressant. C'est le phénomène du graphe, qui va se focaliser beaucoup plus sur ces quatre voies, hein, où l'on va retrouver donc une expression artistique spontanée.
Comment un morceau de nature devient paysage ?
Alors, un morceau de nature devient paysage quand on le cadre.
Donc, c'est le regard qui crée le paysage ?
C'est le regard. Hein, c'est le regard qui fait le paysage et c'est le regard souvent qui le reconstitue. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un poteau EDF qui gêne dans une photo, on l'élimine, quoi. Donc il y a véritablement toute une école de photographie qui s'est développée à La Réunion, justement par cette idée du regard sur le paysage.
En quoi, selon vous, l'environnement dans lequel vit l'artiste, dans lequel on vit, détermine son art ?
Ben, d'abord le climat. Ça, c'est le fait que nous ayons un ensoleillement naturel, que nous soyons un peu dans une zone tropicale, fait que nous vivons dehors et non pas à l'intérieur comme dans les autres régions françaises. Quand on vit dehors, eh bien finalement, on porte notre regard sur le paysage de manière systématique. Alors, au début, dans l'architecture, on le portait dans ce qu'on appelle la varangue. La varangue est une entrée de maison où on accueillait les personnes. Et donc le paysage s'était tourné vers la rue, vers l'autre. Et puis ces maisons se sont un petit peu transformées. On a considéré que la partie arrière, qui était la partie domestique, la partie utilitaire de la maison, n'avait plus sa raison d'être au début du XXe siècle, même à la fin du XXe siècle. Et donc la varangue qui était à l'avant s'est déplacée à l'arrière. Et donc là, les maisons qui étaient en bas ont été construites en haut. Et la varangue qui se trouvait à l'arrière, eh bien, c'était pour regarder vers l'océan, pour regarder le paysage. Donc il y a eu une mutation du regard qui est, à mon avis, très intéressante, qui tient à la fois de l'art et de l'architecture.
Les actes de séminaire Patrimoine Paysage sous le vent sont disponibles aux éditions Terlac que vous dirigez. Merci beaucoup, Michel Bernard.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Firminard avec son très bon choix musical. Disons-le, on adhère complètement à Boy Archer Alley de l'album Careful. impossible de rester assis, Fiaminard, en écoutant Boy Archer. C'était le but, hein.
Oui, oui, c'est une vraie épreuve.
Il faut danser.
Il faut danser, il faut accepter de sortir nos corps des gonds. il faut absolument.
Ouais. Il faut bouger, il faut se donner ce plaisir-là aussi. Pousser les meubles même et danser chez soi. Peut-être quand même un petit peu en extérieur. On peut l'espérer. Bouger, faire bouger, on a parlé tout à l'heure des pièces de glace. On pourrait évoquer très rapidement les pièces de vent, L'après-midi d'un feu, une vortex. Puis très différemment, les eaux noires aussi, les os noirs. Qu'on ne confonde pas à la radio, les eaux noires. Avec ces danses, des éléments, on va dire, mais je voudrais quand même parler évidemment de la période la plus récente de votre travail, avec l'eau et la vapeur comme nouveaux éléments dans vos créations, avec Belle d'hier, c'était en 2015, il y avait cette dernière lessive du monde, avec ces 5 interprètes femmes qui étaient là pour ranger l'humanité. On l'a lavé, on l'a essoré, on a expurgé le fantasme du prince charmant. En 2017, Les Contes immoraux, venons-y, partie 1, Maison Mère, c'était la documenta 14 de Cassel qui vous avait invité. C'est dans ce cadre que vous avez conçu cette première pièce. On assistait à la construction d'un Parthénon en carton qui allait être mis à mal, lui aussi, pour le coup, détruit lorsque l'orage éclate et que la pluie, évidemment, fait ramollir et s'affaisser totalement ce carton. La dimension politique, ici, on l'entend bien, fait partie intégrante de votre travail, Fiaména. Mais qu'est-ce qui vous a déterminé à être finalement, et on va en parler aussi pour la trilogie dans son ensemble, aussi frontal dans le propos?
Je crois que c'est une... C'est aussi sans arrêt à chercher dans la pratique de l'écriture, l'acte théâtral. Je suis une spectatrice, hein, je vais beaucoup au spectacle, je vois beaucoup de choses, donc je m'intéresse sans arrêt à savoir quel est le rapport que nous entretenons au dialogue avec le spectateur, et aussi à cette possibilité d'avoir un langage qui va sans arrêt se simplifier. Alors c'est vrai que je le dis dans ce sens-là, plus que se radicaliser, parce qu'il est à un autre endroit. Lorsque je compose en effet une pièce comme Maison Mère partie 1, j'ai déjà de toute façon le cadre qui lui me le désigne, c'est-à-dire cette documenta avec ce thème « Apprendre d'Athènes pour un parlement des corps ». Finalement, je vais chercher de plus en plus à quel endroit. Nous avons en commun des symboles et qu'est-ce que nous faisons de ces symboles? Et finalement, ça devient une sorte de jeu de composition sans arrêt de re-questionner la société par rapport à ce qu'il rend dans le symbole, ce qu'il aime voir du symbole, et finalement, qu'est-ce qu'il en comprend du symbole? Parce que la question est toujours la même. Dedans, j'ai besoin, moi, de faire que le spectateur, à cet endroit-là, trouve une place, c'est-à-dire qu'il trouve ce moyen de rentrer dans l'objet, et puis en même temps d'en sortir avec énormément d'interrogations, ou en tout cas de sensations, et du désir de le partager. Donc j'irais presque l'acte politique, il est plus de dire que ça va provoquer après plutôt que la scène. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut être très simple. Il faut aller chercher la forme dans sa plus grande lisibilité. Et en même temps, je crois aussi que dedans, il y a un rapport à, notamment par exemple dans Maison Mère, le rapport à la vitesse, qui est une vraie question, où finalement vous êtes face à une situation où vous savez que ça va être long, vous savez que vous allez passer par une phase d'ennui, et que cette phase d'ennui, finalement, elle vous porte à, d'un seul coup, sentir la moindre chose. C'est-à-dire que plutôt que remplir l'espace, le plateau, d'effets, d'émotions, d'objets et de quoi que ce soit, ou même d'images, c'est pas beaucoup de spectacles avec des images, mais de plutôt aller à l'inverse. C'est-à-dire demander au spectateur d'un seul coup de nourrir des réflexes de curiosité comme si d'un seul coup il entendait quelque chose et qu'il doute de ce qu'il a entendu. Il voit quelque chose parce qu'il était en train de passer par une phase un petit peu bizarre. D'un seul coup, il se met à imaginer. C'est son imaginaire qui m'intéresse, c'est pas mon imaginaire. C'est à quel endroit, lui, il va retoucher à des choses et finalement retoucher au symbole.
Peut-être à ce propos-là, écoutez... court extrait de l'entretien que Angelica Liddell m'avait donné quand elle était venue ici dans l'affaire culturelle il y a tout juste deux mois, le 27 octobre dernier. Je lui demandais si c'est en se confrontant à ce qu'il y a de plus noir en nous qu'on pouvait espérer se rapprocher de notre humanité.
Sí, necesitamos esa confrontación porque todo
oui, je crois qu'on a besoin de cette confrontation parce que tout ce qui est autour de nous nous dit le contraire. Hein. Ça nous dit à quel point on est beau et on vit une époque où on est dans la culture du laïc. Hein. Je pense que l'être humain a besoin que quelqu'un lui mette en face de lui un espèce de miroir déformant, quelque chose qui lui permet de voir qui il est, hein, quelque chose qui lui dit mais non, tu n'es pas bon. Voilà, vous allez pas m'avoir en fait, vous allez pas me tromper.
Cette catharsis, vous nous l'offrez aussi.
Sí, claro, es lo que a través oui, de
bien sûr.
Mi propia tensión espiritual.
Et creo que c'est solo à travers ma propre tension spirituelle que cette catharsis se produit, je crois. Je pense que ce n'est qu'en faisant ce passage vers le chamanisme que ça se passe, et ça ne se fait que si on met son esprit dans un état extrême.
Angelica Liddell, Fiamena, alors, le rapport au chamanisme, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout le même pour vous, quoique, en même temps, peut-être je vous pose la question. Chamanisme aussi, vous employez ce mot?
J'emploierais le mot chamanisme dans le sens de la pratique du rituel.
Oui, comme Angelica Liddell, voilà, au fond.
C'est-à-dire que c'est là où moi je regarde le travail d'Angelica. C'est en effet, finalement, le chaman, lui, porte quelque chose pour la société, pour la tribu. Donc, dans le rituel qui est pratiqué par la tribu, seul le chaman arrive à en donner quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est là où nous, on fait un acte aussi presque de désacralisation. Je veux dire, nous, on l'offre au spectateur. Donc on lui donne aussi un rapport d'existence et on lui offre la possibilité d'être dans la peau du chaman. Puisque finalement, si je regarde les Bustod, je vois une chamane. Je vois que quand je vais faire Maison Mère, cette Athéna punk que nous avons devant nous, elle porte ça, elle porte une figure très symbolique, et en même temps, elle vient quoi faire? Elle vient construire une maison pour sauver le monde. Elle vient abriter, c'est le Parthénon, quand même prévu pour habiter les Athéniens. Donc, c'est dans cet acte de rituel, et c'est vrai que vous parliez de Belle d'hier, ou même lorsque j'ai fait Saison sèche, je sais que j'ai un attachement au rituel, et je pense que je reconnais dans les artistes d'ailleurs ceux qui me touchent, cette question de la ritualité et cette compréhension sans arrêt de finalement le théâtre entre on pourrait dire, moi je dis souvent finalement entre le premier acte qui est dans la grotte Chauvet d'aller tracer des ours, des loups, une course et d'être obligé d'y aller avec quelque chose qui va mouvoir l'espace parce que la flamme va créer une sorte de sensation, c'est bien un acte chamanique, c'est convoquer des éléments dans un endroit retiré, le théâtre est un endroit retiré. Et finalement, c'est dans ce même rapport qu'on arrive à créer ce rapport à la spiritualité.
Et heureusement, il y a toujours des gens qui ont envie d'entrer dans les grottes pour aller à la rencontre des chamans et des offrandes des artistes que vous êtes. Mais pour évoquer cette trilogie des contes immoraux pour Europe, il y a eu Maison Mère, je l'ai dit tout à l'heure, mais donc deux autres volets, Temple, Père, La Rencontre Interdite, créés eux dans ce que nous vivons depuis maintenant deux ans, c'est-à-dire le contexte de cette pandémie qui se trouve donc, si j'ai bien compris, intégrée, parce que je n'ai pas encore vu le spectacle, intégrée à votre réflexion. Mais de quelle façon, et là peut-être de façon un peu concrète, comment se sont construits ces deux autres volets de la trilogie?
Alors déjà, les deux volets étaient prévus dès le départ. Dès le départ, j'avais prévu que cette trilogie de contes allait interroger sans arrêt ce rapport qui était la première base. Moi, artiste né en France, française, invité dans une documenta allemande pour travailler sur un sujet en Grèce. Donc quelque part, c'était le vrai croisement européen. Ce qui a donné tout de suite cette question de dire « Ok, je prends le terme même de construction européenne comme une base et je vais prendre ça comme le sujet central de cette trilogie. » Le Parthénon, donc cette base très antique. Et puis après, je me suis proposé plutôt de réfléchir à une étape complètement autre du mélange de la religion, c'est-à-dire le mythe de la tour de Babel pour temple père. Mmh. Et puis en même temps, cette vision de Achille Mbembe et de la nécropolitique, en disant, finalement, en faisant ces croisements, en disant, mais la tour de Babel, ça m'intéresse bien pour ce conte, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans cette tour de Babel. C'est-à-dire une société qui voudrait toujours plus, mais est incapable de savoir pourquoi. Alors, dedans, c'est arrivée cette pandémie, bien sûr. Elle a automatiquement amené un regard encore plus cinglant, je dirais. C'est-à-dire que c'est comme si finalement cette pluie torrentielle qu'on voyait sur la maison mère n'était plus le déluge d'un réchauffement climatique, mais c'était même quelque chose encore pire, c'est de quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, invisible, et qui s'effondre. Donc, Temple Père est arrivé comme la possibilité de dire, est-ce que nous avons deux choix? Peut-être que j'attendais ce mouvement un peu initié par Bruno Latour, avec d'autres, de dire, ok, c'est le moment d'après. Finalement, ce moment d'après, il a fallu très peu de temps pour comprendre que ce ne serait pas le moment d'après. Donc, j'ai décidé d'écrire, finalement, une séance sadomasochiste où il y aurait des esclaves qui montraient une tour de Babel et une dominatrice qui serait là pour nous donner les grands éléments de langage d'une Europe qui va changer, mais qui, finalement, ne change pas. Et c'est devenu, finalement, cette idée que, voilà, on allait construire pour quelques personnes qui auront eu cette possibilité de l'argent, du pouvoir, mais même qui finalement ont peut-être quelqu'un encore au-dessus d'eux, et qui trouveront toujours le moyen de générer cette situation de vouloir du profit, donc de contrôler, et donc de repartir en disant, voilà, nous sommes dans un monde sadomasochiste, et dans tout sadomasochisme, il y a un contrat, et dans ce contrat, on ne peut pas dire que l'esclave ne soit pas conscient, non, il a choisi aussi. Donc je repose cette question en disant, voilà, finalement, c'est le moment peut-être de reposer ces questions. Alors que dans La rencontre interdite,
qui clôt la trilogie,
s'est posé tout de suite un sujet très important pour moi, qui a été le moment où les théâtres ont été fermés. Ok, c'était le premier confinement, mais surtout le deuxième. C'est-à-dire au moment...
L'hiver dernier,
où d'un seul coup... On autorisait les lieux de culte, mais on n'autorisait pas les théâtres et les lieux de culture. Et pour moi, c'était le message évident, très fort, auquel je ne pouvais pas échapper. C'était bien cette rencontre interdite, c'est-à-dire au moment où on avait fermé une fois les théâtres, alors on trouverait toujours sujet pour le refaire. Et ça, pour moi, ça me pose une question fondamentale, qui est de dire que ça veut donc dire qu'on ne considère pas la culture comme faisant partie de l'émancipation humaine. Et là, il était évident que je devais réagir à ça. Ce qui a changé d'ailleurs la forme totalement, en acceptant que la rencontre interdite allait être aussi, d'une certaine manière, presque un acte vraiment de performation, qu'on pourrait dire presque en mémoire des actionnistes viennois, peut-être, ou d'une relation qui nous pose vraiment une question de... Ok, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on aurait envie de voir ça à la fin?
On en revient quand même à des... Dans ce que vous me dites, ne l'ayant pas encore vu, à des moments où... Première pièce de glace, deuxième pièce de glace, où vous étiez vous-même glaçon, à vous arracher la peau. Il y a cette notion-là aussi qui revient, cette notion de dureté envers vous-même, pour, encore une fois, interagir avec le public.
Alors, ce n'est pas une dureté envers moi-même, enfin, c'est vraiment...
Les mots sont mal choisis.
Voilà, mais je pense qu'elle est... Bon, cette fin pose une question du corps.
Ouais.
Je pense fondamentalement que le corps, puisque je suis en scène, n'est pas le corps qui pourrait être dans la distance de l'artiste, mais plus l'artiste, et donc qui revendique l'acte. Bien sûr, c'est un acte qui est désagréable. Il est désagréable à faire, mais il est important de le faire. Et c'est peut-être aussi ça l'acte chamanique, c'est qu'il faut le faire.
On va se retrouver dans quelques minutes pour conclure ensemble cette émission Fiamme et Noir. On se retrouve après Affaire à suivre.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Comme chaque lundi, nous partons à l'étranger, ce soir direction l'Autriche où nous retrouvons Isor Hiaz. Bonsoir Isor.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Isor, vous nous parlez ce soir d'un des plus grands auteurs de langue allemande, Franz Kafka, auteur qu'on associe à juste titre à Prague, à la ville où il est né. Mais ce soir, vous nous emmenez sur ses traces à Vienne, là où il passera les dernières semaines de sa vie.
Oui, en avril 1924, sa tuberculose a déjà atteint le larynx et Kafka, alors âgé de 40 ans, est admis dans une clinique viennoise spécialisée. Il sera rapidement transféré dans un petit sanatorium situé à Kirling, à 20 km au nord de Vienne, où il restera jusqu'à sa mort le 3 juin de cette même année. Au deuxième étage du bâtiment, où il avait sa chambre, qui n'existe plus en tant que telle, une salle commémorative, faisant office de musée et de bibliothèque, a été installée par la société autrichienne française Franz Kafka dès 1983, comme l'explique son président Manfred Müller.
À l'époque, il n'y avait aucun lieu comparable. On peut dire que ça a été le premier musée Kafka. Car en Tchécoslovaquie, Kafka n'était pas officiellement interdit, mais on trouvait difficilement ses livres et il n'existait aucun mémorial ou musée sur lui. Ce musée de Kirling avait donc une signification particulière. Cela a changé avec la chute du rideau de fer, car des musées et lieux de mémoire ont alors été créés à Prague. C'est pourquoi, en 2013, nous avons décidé de changer le but de ce lieu, désormais consacré aux derniers mois de la vie de Kafka.
Ce sanatorium est l'un des rares endroits au monde où Kafka a vécu, qui soit resté en l'état et qui se visite. Le bâtiment, mais aussi le balcon où Kafka aimait se reposer face à la verdure, rien n'a changé. On est plongé dans cette atmosphère imprégnée des dernières sensations de cet immense écrivain. Une émotion renforcée par les objets et documents exposés au musée, notamment un lit d'hôpital des années 1920 tel qu'il l'a connu.
Et où l'on voit dans cette plongée dans les derniers instants de Kafka, que c'était un quotidien difficile.
Oui, imaginez, lorsqu'il est admis, Kafka ne pèse plus que 45 kilos pour 1m81. C'est dire la souffrance physique qu'il endure. Ses lettres nous montrent la dégradation de son état. Dans sa toute dernière, il se répète, semble confus sous l'effet des médicaments. C'est d'ailleurs Dora Diamant, son dernier amour, qui achève de l'écrire. On mesure le soutien incroyable de cette femme qui n'a pas hésité à s'installer au sanatorium pour soulager Kafka au quotidien. C'est aussi l'un des intérêt de ce musée, combattre les clichés parfois associés à Franz Kafka. Kafka n'était par exemple pas seul, mais au contraire très entouré. Il a reçu beaucoup de visites à Kirling de certains membres de sa famille et d'amis proches, dont l'incontournable Max Brod, à qui on doit la publication posthume de chefs-d'œuvre de Kafka, Le Château et Le Procès, pour n'en citer que quelques-uns. Et
justement, Isor, est-ce qu'on sait si Kafka a écrit lors de ses derniers jours à Kirling?
Oui, il a travaillé jusqu'au dernier moment à son recueil « Un artiste de la faim » qui paraîtra 2 mois après sa mort. On sait aussi qu'à cette époque, il essayait de publier beaucoup de ses récits car il avait besoin d'argent, ce qui encore une fois contredit le cliché selon lequel Kafka publiait peu de son vivant. Mais on ne peut savoir avec exactitude ce qu'il a écrit à Kirling. En effet, après sa mort, Dora Diamant récupère son journal, ses lettres et peut-être des manuscrits qu'elle souhaite donner à Max Brod. Elle ne pourra jamais le faire car son appartement sera vidé par la Gestapo et on ignore aujourd'hui encore ce que ces précieux documents sont devenus. Le musée expose en revanche d'intrigantes petites notes manuscrites.
La seule chose que nous connaissons de ce que Kafka a écrit ici sont ces petits bouts de papier. Il les a écrits car les médecins lui avaient demandé de parler le moins possible. Ce sont des témoignages très différents. Il y a parfois des aphorismes. Regardez cette phrase par exemple, que Kafka a dû écrire pour une personne qui venait d'entrer dans sa chambre. Il note « Il y avait un oiseau dans la pièce ». On trouve donc de telles phrases, mais aussi de courts récits sur sa période au sanatorium. C'est très différent et très personnel.
Kafka meurt le 3 juin, il sera enterré au nouveau cimetière juif de Prague. Plusieurs réactions du monde littéraire à sa mort sont exposées au musée, prouvant que son talent était déjà reconnu de son vivant.
Et Franz Kafka qui demeure aujourd'hui un auteur à part en Autriche, Isor.
En effet, il est une icône absolue qui continue d'être lue et d'inspirer de très nombreux écrivains autrichiens. Bien sûr, son aura s'étend au-delà de l'Autriche. Les visites reçues à Kerling le prouvent. Kafka parle à toutes les époques et à tous les pays.
Kafka
a ôté toute information spécifique de ses œuvres, qu'il s'agisse de pays ou de contexte politique. Cela signifie qu'on peut prendre les textes de Kafka tels qu'ils sont. Ils sont déjà internationaux. Et puis, sa manière d'écrire fait qu'on n'en a jamais fini avec la lecture. Lorsqu'on lit la Métamorphose, on ne sait pas avec certitude ce que tout cela signifie. On le relit et on n'a toujours pas de réponse. Kafka est une énigme permanente au sens positif. Cela est aussi un problème car les gens qui le lisent ont en tête que Kafka est énigmatique, voire compliqué. Ils pensent donc qu'il faut avoir l'opinion d'un expert avant de pouvoir soi-même en dire quelque chose. Ce n'est absolument pas vrai car les experts sont confrontés aux mêmes énigmes que les autres.
Pour continuer à faire vivre son héritage, la société autrichienne Franz Kafka organise régulièrement des rencontres ou événements autour de l'auteur ou de ce lieu méconnu qui nous permet pourtant de découvrir un Kafka plus intime.
Merci Zorias pour ces nouvelles venues de Vienne où vous êtes correspondante pour France Culture. Deux minutes encore ensemble, Fia Ménard, alors que donc le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les rassemblements seraient limités dès lundi à 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Ça va faire des heureux et des moins heureux concernant les salles de spectacle. On va dire que ça va faire plutôt beaucoup d'heureux, moins pour les supporters sportifs et pour les jeunes gens dont on connaît un certain nombre qui aimeraient aller voir des... leur vedette en concert, mais si le secteur culturel était à nouveau menacé, est-ce que vous pensez que vous serez nombreuses et nombreux à vous opposer aux politiques, Fia Ménard ?
J'aimerais vous dire oui. Je voudrais vous dire oui et j'aimerais, et peut-être je dis oui, il le faut. Oui, il faut avoir aussi cette relation nécessaire à nous autres artistes de notre engagement à ne pas avoir peur. C'est-à-dire de re-questionner finalement la valeur de nos peurs par rapport à des politiques et aussi la nécessité de réimposer finalement la culture est une des composantes essentielles de toute forme de démocratie. Si on retire la culture, faisons autre chose. Mais oui. Ça sera absolument terrible. Non, il faut absolument s'opposer.
Vous devez jouer à Anvers dans quelques semaines, à peine.
Oui.
Vous regardez ce qui se passe du côté de la Belgique en ce moment, bien où les salles ont fermé hier.
Bien évidemment, je regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup de... Encore une nouvelle fois, hein, sont nos amis belges qui nous montrent aussi un acte de résistance, ils l'ont déjà fait. Hein. Donc c'est aussi ça. Je pense que à un moment, il faut aussi... Ben oui, il faut pas avoir peur de descendre dans la rue, il faut pas avoir peur de faire certains actes. On est sans arrêt à célébrer la victoire et les grands auteurs qui auront pris des positions pas possibles. Sommes-nous à cet endroit-là ?
Merci Fia Ménard d'avoir été ce soir notre invité. Votre trilogie des contes immoraux pour Europe poursuit sa tournée. Elle sera donnée, on peut le dire vraiment maintenant, à la MC 93 de Bobignon. On est très heureux du 6 au 12 janvier. Ensuite, ce sera au Tandem, à Razdoué, à Anvers, on l'espère.
Oui.
À Bayonne, à Chambéry, au Mans, à La Roche-sur-Yon, à Rennes. D'autres dates spécifiques pour certains d'autres de vos spectacles. Tout ça sera sur la page internet des Affaires Culturelles. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France. Émission préparée par Aïssa Toundoy, Boris Pinou, Anouk Minaudier, Dina Pellaros, Anna Baron, Juliette Hamon et Lucille Comeau.
Affaires culturelles avec Merlin, la sélection audio de Bayard et Radio France pour les enfants de 3 à 10 ans à écouter sur une enceinte. Informations sur hello-merlin.com.